de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 24 octobre 2022. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Sédoudia. Tout d'abord, les titres. En République démocratique du Congo, affrontement meurtrier entre l'armée et des rebelles du M23. Au Burkina Faso, interview exclusive du nouveau Premier ministre, Maître Apollinaire Kyliem de Tambela, à VOA Afrique. En Somalie, 9 morts et 47 blessés dans une attaque des islamistes Shebab contre un hôtel de Kismayo. Au Soudan, un manifestant tué dimanche à Khartoum, 2 jours avant le premier anniversaire du putsch du général Abdel Fattah al-Burhan. Washington, Londres et Paris craignent un prétexte russe pour une escalade en Ukraine. En Grande-Bretagne, Rishi Sunak, l'ex-ministre des Finances, pourrait être Premier ministre dès lundi soir. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. En RDC, hier dimanche, des responsables militaires et des habitants ont fait état de la prise par les rebelles du M23 du village de Ntamugenga, une cible proche, stratégique, proche de la grande route menant vers la capitale de la province du Nord Kivu, Goma. Des affrontements entre l'armée et ses rebelles ont éclaté depuis la fin de la semaine dernière, rompant une période de calme relatif, Jean-Roger Bion.
La situation est morose ici. Le M23 vient de prendre Ntamugenga, a fait savoir dimanche Célestin Nyamugira, le chef du village. Le responsable de l'hôpital de Ntamugenga, John Sebatware, a précisé que 5 soldats et un civil avaient été tués et 33 personnes blessées. D'autres responsables médicaux de l'hôpital régional de Rutshuru ont fait état de leur côté de 4 personnes tuées et 8 autres blessées vendredi et samedi. Médecins sans frontières a tweeté que 500 personnes se sont réfugiées dans un couvent de Ntamugenga, dont certaines ont été blessées. L'ONG a appelé à la création d'un corridor humanitaire pour évacuer les civils. Ancienne rébellion à dominante Tutsi, le M23 a repris les armes en fin d'année dernière en reprochant à Kinshasa de ne pas avoir respecté des accords sur la démobilisation et la réinsertion de ses combattants. Le M23 a depuis conquis du terrain dans la province du Nord Kivu, notamment en juin, avec la prise de la ville stratégique de Bunagana à la frontière avec l'Ouganda.
Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a prêté serment vendredi matin, a nommé dans la soirée Maître Apollinaire Kyliem de Tambela, 64 ans, comme Premier ministre. Le nouveau chef du gouvernement est un homme de droit. Il annonce déjà les couleurs. Sur la question du partenariat militaire avec des puissances occidentales, il ne sera pas question pour le Burkina Faso de se laisser dominer par un partenaire quelconque, a-t-il affirmé dans un entretien exclusif avec notre correspondant à Ouagadougou, Lamine Traoré.
Sur la question du partenariat dans cette lutte contre le terrorisme, des voix s'élèvent pour réclamer donc un partenariat avec la Russie parce que le partenaire français ne produit pas de résultats. Selon elle, quel est votre avis sur ce sujet?
Quoi qu'il en soit, il ne sera pas question pour le Burkina Faso de se laisser dominer par un partenaire quelconque. Voilà, ça doit être clair.
Que ce soit la France ou la Russie.
Quel que soit le pays, il ne sera pas question pour le Burkina Faso de se laisser dompter et dominer par un partenaire quelconque. Nous négocierons avec tous les partenaires en ayant en vue l'intérêt d'abord du Burkina Faso. Et c'est ce qui est important pour le Burkina Faso qui serait pris en compte. Si nous estimons qu'il y a un partenaire qui n'est pas loyal avec nous, nous attirerons son attention. Et s'il persiste dans son comportement, nous reverrons nos relations avec ce partenaire. Cela doit être clair et compris par tout le monde. C'est la souveraineté du Burkina Faso qui sera prise en compte en première ligne.
Maître Apollinaire Kyliem de Tambela, nouveau Premier ministre du Burkina Faso. En Somalie, 9 morts et 47 blessés, parmi lesquels des élèves qui sortaient d'une école voisine au moment d'une attaque de plus de 6 heures des Chebabs dimanche contre un hôtel de la grande ville portuaire de Kismayo dans le sud. Ces derniers mois, on a assisté à un regain des actions violentes des Chebabs qui ont notamment ensanglanté la capitale Mogadiscio et le centre du pays. 4 assaillants étaient impliqués, un premier qui a mené une attaque suicide suivie de l'intrusion de 3 hommes armés dans l'hôtel. Ces derniers ont été abattus par les forces de sécurité. Au Soudan, un manifestant a été tué hier à Khartoum. Il a été victime d'une balle tirée par les forces de sécurité selon des médecins, alors que débute la mobilisation des anti-putsch qui doit culminer demain mardi, premier anniversaire du coup d'État du général Abdel Fattah al-Burhan. Nanit Talani.
Ce nouveau décès, le premier d'un manifestant depuis le 31 août, porte à 118 le nombre de protestataires tués en un an de répression, ajoute le syndicat de médecins qui recense les victimes depuis un an. Les militants et les comités de résistance, ces groupements de quartiers qui organisent les défilés, promettent une nouvelle démonstration de force dans la rue demain mardi, pour le premier anniversaire du putsch. Vendredi déjà, ils sont parvenus à mobiliser des milliers de manifestants dans différentes villes pour réclamer un retour des civils au pouvoir. Le 25 octobre 2021, le général Fattah al-Burhan, chef de l'armée, a limogé les membres civils du gouvernement supposé mener le pays vers la démocratie. Depuis, presque chaque semaine, les Soudanais descendent dans la rue, bravant la répression. Depuis un an, le Soudan ne cesse de s'enfoncer dans la crise politique et économique. Aucune sortie de crise ne semble en vue malgré les multiples médiations qui tentent de faire s'asseoir à la même table de négociation les civils et les militaires.
En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a promis hier de mettre en œuvre de nombreuses recommandations du rapport accablant d'une commission d'enquête sur la corruption qualifiée de capture d'État sous la présidence de son prédécesseur Jacob Zuma. Ces quelques 350 recommandations remises la veille au Parlement y seront débattues, a annoncé M. Ramaphosa lors d'un discours télévisé. Jacob Zuma a lui-même accusé M. Ramaphosa de corruption, allusion à une obscure histoire de cambriolage dans l'une des propriétés de son successeur, où il est accusé de blanchiment.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, s'est entretenu hier au téléphone avec ses homologues américains, français, britanniques et turcs du conflit en Ukraine. Il s'agit d'échanges d'une intensité inédite en un seul jour pour M. Choïgou depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, Mohamed Houmfa.
Lors de la conversation avec le ministre français Sébastien Lecornu, le ministre russe a dénoncé la situation en Ukraine qui a une tendance à une escalade incontrôlable selon un communiqué russe. Plus tard, dans la journée, le ministère russe a fait état d'entretiens téléphoniques avec les ministres de la Défense turcs Hulusi Akar et britannique Ben Wallace. Durant les 3 appels, M. Choïgou a fait part de ses préoccupations liées à d'éventuelles provocations de la part de l'Ukraine avec recours à une bombe sale, a ajouté la même source. M. Choïgou s'est également entretenu dimanche avec le chef du Pentagone, Lloyd Austin. Selon le ministère russe, leur seconde conversation depuis vendredi est la 3e depuis le début du conflit. Le communiqué russe, rendant compte de ce dernier entretien, ne mentionne pas les allégations d'utilisation d'une bombe sale par les Ukrainiens. Ces discussions interviennent alors que la Russie fait face à une vaste contre-offensive ukrainienne et dénonce une augmentation considérable des tirs ukrainiens sur plusieurs régions russes frontalières.
Les allégations concernant une bombe sale ont été rejetées par Kiev, Washington, Paris et Londres, qui craignent un prétexte pour une escalade. En Grande-Bretagne, l'ancien ministre, une escalade en Ukraine. En Grande-Bretagne, l'ancien ministre des Finances britannique Rishi Sunak apparaît en position de force pour devenir peut-être dès ce lundi le nouveau premier ministre britannique à la place de Liz Truss après l'abandon spectaculaire de Boris Johnson. Celui qu'elle avait elle-même remplacé, M. Johnson a reconnu que sa nouvelle candidature divisait profondément son parti conservateur. Le président chinois Xi Jinping a été reconduit dimanche à la tête du Parti communiste, s'entourant de fidèles alliés pour devenir le dirigeant le plus puissant de la Chine moderne. La Minute Éco, Nathalie Barge.
La Banque africaine de développement a lancé un projet de création d'emplois pour les jeunes dans 3 pays africains. L'initiative vise à créer des petites et moyennes entreprises durables pour les jeunes grâce à l'agriculture urbaine au Nigeria, en République démocratique du Congo et en Ouganda. Le projet a reçu un don de 937 000 dollars du Fonds d'assistance au secteur privé africain géré par la BAD. Au Sénégal, le gouvernement a entériné une hausse du budget de l'État de plus de 6 400 milliards de francs CFA dans le cadre du projet de loi de finances. Ces chiffres s'expliquent par une croissance projetée à 10,1% à la faveur du début d'exploitation des hydrocarbures des projets Grande Tortue, Ameyine et Sangomar. Selon le gouvernement, cette croissance est en grande partie tributaire du secteur secondaire. En Algérie, les exportations non pétrolières ont atteint 5 milliards de dollars fin septembre, soit l'équivalent de leur valeur sur l'ensemble de 2021, s'est félicité hier le Premier ministre Ayman Ben Abderrahmane. Ce chiffre témoigne du rythme continu des réformes dans le commerce extérieur du pays, a-t-il souligné, ajoutant que le gouvernement vise 7 milliards de dollars d'exportations hors hydrocarbures d'ici la fin de l'année.
Merci Nathalie. À présent, les sports avec Élisée Onfatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Du football pour commencer, mais à la plage d'abord avec la CAN de beach soccer au Mozambique.
Oui, et le tenant du titre, le Sénégal, a déjà assuré sa place dans le dernier carré. Les Lions du Sable, pour leur deuxième sortie, ont battu l'Égypte 6-4. Dans l'autre rencontre du groupe, victoire de l'Ouganda 6-3 devant Madagascar. Dans la poule A, le Maroc a réussi son entrée en battant le pays hôte, le Mozambique, 3-1.
Sur le gazon, on jouait ce week-end le second tour aller des éliminatoires de la CAN des moins de 23 ans.
Tout à fait. Et le Gabon a pris une option sur la qualification en allant battre Madagascar 1-0. Victoire en déplacement aussi du Ghana 2-1 du côté de Mozambique, tout comme le Cameroun 3-2 en Angola. Belle performance de la RDC, vainqueur 4-1 de l'Algérie, du Soudan 2-0 face au Bénin. Un match à vite oublié pour les écureuils qui veulent réagir à domicile selon le sélectionneur adjoint Patrick Agbeinou.
C'est du revers de telle en sorte que quand tu as une équipe qui produit du jeu, je tiens à féliciter vraiment les joueurs par rapport à cela. Il y a eu la production du jeu. Et si vous savez, quand vous jouez, que vous dominez, que sur des points, qui arrêtez l'équipe vous marque un but, ça fait vraiment mal. On va aussi continuer à travailler la finition, on l'a fait dans la préparation. Mais aujourd'hui, on s'est procuré d'occasions de but qu'on n'a pas pu concrétiser. On va continuer à travailler la finition. Si le Soudan a pu nous marquer 2 buts chez lui, pourquoi pas nous on peut également leur marquer 2 buts.
Autre succès à domicile, celui du Congo-Brazzaville 1-0 devant la Tunisie.
Une seconde phase aller marquée par des matchs nuls.
Oui, en témoigne le duel ouest-africain-Burkina Faso-Sénégal disputé à Cotonou. Score 0-0. Identique pour les matchs Eswatini-Égypte et Niger-Côte d'Ivoire. Nul aussi, mais de 2-0 concédés par le Togo devant l'Afrique du Sud. 1-1 entre le Rwanda et le Mali. Pareil pour Tanzanie-Nigeria et Sierra Leone-Zambie. Les matchs retour sont prévus en fin de semaine.
On termine avec du basket, les qualifications pour le Basketball Africa League dans la zone ouest.
Et on connaît les deux équipes qualifiées de cette division pour l'élite 16. Les Ivoiriens d'ABC, 3 victoires en 3 matchs, la dernière 89-56 face au Béninois d'Elan Coton. Et le Stade malien grâce à sa victoire 82-55 sur le club hôte, l'ASC Nigelec. On connaît aussi les qualifiés de la zone S dont les éliminatoires ont eu lieu à Antananarivo. Il s'agit du club Omnisport Police Nationale de Madagascar et les Kenyans du Port Authority. On reste avec vous Idrissa pour les résultats des matchs de la saison régulière de la NBA joués cette nuit.
Quelques-uns de ces résultats, Golden State bat Sacramento 130 à 125. Portland bat LA Lakers 106 à 104. Charlotte écrase Atlanta 126 à 109. Cleveland bat Washington 117 à 107. Utah, de justesse, bat la Nouvelle-Orléans 122 à 121. Minnesota bat Oklahoma City 116 à 106.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a prêté serment vendredi. Il a juré de respecter la constitution et surtout de recouvrer l'intégralité du territoire. Il a 21 mois pour réussir sa mission. Pour le moment, il peut compter sur le soutien de nombreux Burkinabés, nous dit de Ouagadougou notre correspondant Lamine Traoré.
C'est officiel depuis vendredi. Ibrahim Traoré est le président de la transition et le chef de l'État. La main droite levée, le jeune capitaine de 34 ans a juré de défendre les intérêts du pays. Son principal défi sera la restauration de l'autorité de l'État sur le territoire national et le retour des déplacés dans leur localité d'origine. Ibrahim Traoré sait qu'il n'a pas droit à l'erreur. Le capitaine Traoré.
Aucun sacrifice ne sera de trop pour sortir ce pays de la situation dans laquelle il se trouve. Donc notre engagement, c'est pour un retour de la paix. Et notre boussole sera toujours ce peuple. C'est ce qui va nous guider tout le long de ces 21 mois.
La cérémonie a été sobre et symbolique devant les juges du Conseil constitutionnel et des dizaines de jeunes partisans qui lui apportent soutien.
Aujourd'hui, nous sommes très satisfaits et nous souhaitons du succès à la nouvelle transition. Merci. Nous demandons à Dieu de protéger cette transition et que cette transition emboîte le pas du peuple.
Bon, vraiment, aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré, il a prêté son serment au nom de la nation. Trop fier de lui, on va l'accompagner jusqu'au bout. On va le soutenir jusqu'à pour que notre territoire revienne à sa place.
On a eu encore une deuxième chance que Dieu nous a donné, un deuxième capitaine au pays des hommes intègres. Un capitaine qui est jeune, un deuxième capitaine comme Thomas Sankara. Et moi, je suis fier d'avoir lutté pour ce jeune président qui vient de prendre son pouvoir, qui vient de prêter serment.
Le capitaine Traoré a rappelé que le contexte est assez difficile car l'existence même de la nation est en péril, a-t-il déclaré. Il a souhaité que chaque Burkinabé prenne conscience de cette situation, appelant à la cohésion au sein des populations mais aussi au sein des forces de sécurité. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Alors que la campagne pour les élections de février bat son plein au Nigeria, les cas de désinformation et de fausses informations se multiplient. Un groupe de vérificateurs de faits nigérians s'efforce de rétablir la vérité. D'Abuja, Timothée Obiezu de la VOA nous en dit plus. Le récit est de Jean-Roger Bion.
Pour le journaliste au pays Mikeinde, la première tâche de la journée consiste à rechercher sur Internet, dans les programmes télévisés et les médias sociaux, toute information susceptible d'être vérifiée. S'il repère une information douteuse, il la publie immédiatement sur la plateforme de messagerie Slack afin que lui-même et d'autres vérificateurs de faits puissent la vérifier. Keinde dirige Fact Check Hub, une organisation basée à Abuja qui est l'un des 8 membres d'une initiative de vérification des faits plus large connue sous le nom de Nigerian Fact Checkers Coalition. Ensemble, ils combinent leurs ressources et leur expertise pour aider à lutter contre la désinformation avant les élections générales de février au Nigeria. La Nigerian Fact Checker Coalition a vu le jour il y a 4 mois.
Depuis, oui, l'avènement de diverses plateformes de médias sociaux et de l'accès à Internet, beaucoup de gens ont accès à beaucoup plus d'informations qu'il y a deux décennies. Nous avons estimé qu'à l'approche des élections, il était nécessaire de renforcer la sensibilisation, l'éducation aux médias et la vérification des informations diffusées par les politiciens, les parties prenantes aux élections, ainsi que la population nigériane.
La Nigerian Fact Checkers Coalition organise des réunions hebdomadaires et publie ses conclusions dans les rédactions respectives de ses membres afin de contribuer à la diffusion de la vérité. En août, la coalition a publié une lettre ouverte exhortant les politiciens à ne pas utiliser de fausses informations et des mensonges et à veiller à ce que les informations diffusées pendant les campagnes soient exactes et justes. Le mois dernier, le groupe a accueilli des politiciens, des agents de sécurité, des organismes électoraux indépendants et des groupes de la société civile à une conférence pour discuter de l'impact des fausses informations. M. Kehinde affirme que le groupe a remporté quelques succès, mais qu'il a également essuyé des refus.
Nous avons certains politiciens qui mettent maintenant en place des équipes de médias pour attaquer les vérifications de faits qui sont publiées par les membres de la coalition pour fournir des faits alternatifs à certains de nos rapports basés sur des preuves, sur la base de leurs affirmations trompeuses.
L'opinion publique dans le pays est souvent façonnée par les origines ethniques et religieuses, surtout pendant les élections. Et avec une population de plus de 200 millions d'habitants, le ratio entre les vérificateurs de faits et les citoyens au Nigeria est très faible. Pamela Broed, experte en communication basée à Abuja, estime que la diffusion de mensonges peut avoir de graves conséquences.
La communication et la politique vont de pair. La désinformation en fait partie. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle accroît la méfiance des gens. Elle fragilise les relations entre les personnes, les communautés, et elle conduit souvent à la violence avant même qu'elle ne soit vérifiée.
Mais en combinant leurs efforts, la coalition de vérification des faits peut rapidement contrer les fausses informations. Membre de la coalition et rédacteur en chef du site de vérification d'Ubawa, Kemi Boussari explique comment la coalition est entrée en action lorsqu'elle a repéré une vidéo virale sur un homme politique. Les vérificateurs de faits ont découvert que la vidéo avait été manipulée dans le but de faire croire aux électeurs que l'homme politique soutenait un membre du parti d'opposition.
Nous avons fait la vérification des faits et nous avons réalisé que certains gars ont juste décidé d'en extraire une partie. La vidéo a été partagée dans le groupe et nous avons fait la vérification des faits et nous l'avons tous publié et cela a augmenté l'échelle ou l'audience de la vérification des faits. C'est mieux que nous nous mettions ensemble, nous pouvons copublier nos vérifications des faits, nous pouvons coécrire des vérifications des faits.
M. Boussari assure que la coalition ne fait que commencer.
Nous envisageons également plusieurs partenariats avec des ambassades, Google et quelques autres organisations. Nous recherchons en particulier des partenariats avec des organisations qui pourraient nous aider à vérifier les faits en direct. Nous voulons être engagés dans la vérification des faits en direct de chacune de ces conversations.
Alors que les campagnes électorales et les rassemblements s'accélèrent dans tout le Nigeria, la tâche s'annonce ardue pour la coalition de vérification des faits.
Participez à notre magazine interactif à votre avis du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et VOA Afrique. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
En Afrique du Sud, au pied de la chaîne de montagne du Drakensberg, dans le centre du pays, une ONG travaille étroitement avec les communautés locales pour restaurer les pâturages et écosystèmes de la région. Les résultats sont là. Une herbe de meilleure qualité permet au bétail d'être mieux nourri et aux paysans d'améliorer leurs conditions de vie. Un reportage de notre correspondante Patricia Hyon.
Une scie à la main, les bûcherons s'activent dans un épais taillis de black wattle, un acacia originaire d'Australie, importé en Afrique du Sud. Une espèce invasive dont la propagation sur les collines de la province du Cap-Oriental menace la biodiversité locale. Tapelom Lomo et ses collègues coupent les arbres un à un. Ils badigeonnent ensuite la souche d'un herbicide pour s'assurer qu'ils ne repousseront pas.
We don't need this.
Nous n'avons pas besoin de ces arbres, mais nous ne savions pas. Il fallait les couper. Comme ça, l'herbe pourra repousser.
La coupe des arbres a été initiée par ERS, une ONG locale qui œuvre à la protection de l'environnement et au développement rural. Elle est établie dans la petite ville de Matatiel, au pied de la chaîne de montagnes du Drakensberg. Elle collabore avec plus d'une cinquantaine de villages alentours, dit sa co-directrice Sissi Matela.
We are restoring livelihoods.
Nous préservons les moyens de subsistance pour préserver l'environnement. Nos communautés qui ont très peu de ressources ne se soucient pas de conservation. Il faut prendre en compte leurs besoins. En fonction de ce qu'elles en retirent comme bénéfice, elles s'engageront volontairement dans la conservation de la nature.
Des pratiques d'élevage inadaptées ont conduit au fil du temps à une forte dégradation des pâturages, une érosion des sols qui les appauvrit et une perte de rentabilité pour les éleveurs. Zuko Fekisi, employé par ERS, est en charge des programmes liés au bétail.
Si on enlève les acacias, il y aura assez d'herbes pour les pâturages. Les acacias ont de longues racines qui absorbent l'eau et les plantes indigènes ne peuvent pas rivaliser avec ces arbres exotiques. ERS travaille avec les communautés qui ont signé des accords de conservation.
En signant ces contrats, les communautés s'engagent à prendre leurs responsabilités. Les pâturages sont d'importants réservoirs de carbone et contribuent à la régulation du système hydrique. Désormais, chaque année, les animaux sont déplacés régulièrement et certaines terres sont laissées au repos afin qu'elles puissent se régénérer. Une herbe de meilleure qualité permet au bétail d'être mieux nourri et aux paysans d'en tirer plus d'argent. Michael Serroquet, un éleveur, est satisfait.
Nos animaux étaient maigres. C'était difficile d'en tirer un bon prix lors des ventes. Aujourd'hui, nous gardons des pâturages pour les utiliser dans le futur. Et il y a une amélioration.
Dans les collines autour de Matatiel, les paysans deviennent à la fois utilisateurs et protecteurs des pâturages et de la terre dont ils tirent profit. De retour de Matatiel, Patricia Huon pour VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Maman,
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedoudia, à la mise en onde de Georges Léonard Sagnot, à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité.